Bonjour Jeanne, bonjour Yasmina et bonjour Célia.
Bonjour.
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 Est-ce que vous allez bien? Je vous remercie de vous prêter au jeu de cette interview au micro de Radio Vassivière.
Merci à vous.
De notre côté, on est nombreux aussi, puisqu'il y a Jeanne et Nejma qui sont stagiaires en ce moment à la radio, qui vont nous accompagner pendant cet entretien, et puis moi-même, Justine, donc.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, Jeanne Itangu, vous êtes directrice de l'association SOS Violence Conjugale. Est-ce que vous voulez bien me parler de votre rôle en tant que directrice de l'association et puis justement de l'association en elle-même, s'il vous plaît?
Alors, donc notre association, effectivement, porte ce nom, SOS Violence Conjugale, et existe sur le territoire corrézien depuis déjà 34 ans. Donc, c'est 34 ans d'expérience de terrain aux côtés des femmes, des enfants victimes de violences et également des hommes victimes. Et malgré le nom assez spécifique de notre association, on est amené à intervenir auprès de toute personne victime de violences, certes dans la sphère amoureuse, affective, sexuelle, mais on intervient aussi par rapport aux formes de violence dans la réalité de l'activité prostitutionnelle, par exemple. Donc on a différents champs d'intervention sur des sujets de société qui, par définition, sont sensibles et sont encore, pour la plupart d'entre eux, extrêmement tabous. Et donc notre association, elle fait aussi partie, elle est membre d'un réseau national qui s'appelle Solidarité Femmes, qui est fort de 81 associations spécialisées comme la nôtre d'aide aux femmes et aux enfants victimes de violences. Et ces associations, elles sont réparties partout sur l'ensemble du territoire. Ce qui est intéressant aussi à retenir, c'est que nous avons un numéro de téléphone qui est une permanence d'écoute spécialisée téléphonique à vocation départementale. C'est le 05 55 88 20 02. Et ce numéro, en fait, il est référencé à la plateforme nationale du 39 19, qui est un numéro que vous connaissez peut-être. C'est le numéro Violence Femmes Info. Et c'est un numéro, bien sûr, qui est gratuit, qui peut être anonyme, qui, en tout cas, sera toujours confidentiel et qui permet de répondre à toutes les personnes victimes de violences, à toutes les personnes aussi qui ne se définissent pas comme étant victimes, mais qui peuvent se poser des questions, avoir des doutes et qui ont besoin d'informations et d'écoute, à toutes les personnes qui sont témoins aussi. On pense en particulier aux aidants, aux proches, aux différents types d'entourage, que ce soit professionnel, amical, familial. Et c'est un numéro aussi qui permet d'avoir une réponse en tant que professionnel concerné de près ou de loin dans la prise en charge des victimes. Voilà un peu pour le tour d'horizon global en ce qui concerne notre association. Et donc, de mon côté plus précisément, puisque vous me questionniez sur mon poste, moi j'ai vraiment un rôle de chef de projet, en fait, hein, de pilote par rapport aux différents projets, aux différentes actions que l'on peut être amené à mettre en œuvre, et un rôle de coordination, de supervision. On fonctionne avec toute une équipe, on y reviendra peut-être plus précisément. Et puis, bien sûr, il y a différentes autres tâches qui me sont dévolues, notamment le fait de pouvoir activer, créer aux côtés de mes collègues et maintenir aussi du réseau partenarial.
Et ça fait longtemps que vous occupez ce poste ?
Alors, sur des fonctions de responsabilité depuis 2019.
D'accord, merci beaucoup. Yasmina Bougrini, vous êtes travailleuse sociale en ruralité. Alors, rien que dans l'intitulé de votre poste, on comprend quelques éléments de votre travail, mais est-ce que vous voulez bien nous raconter un peu en quoi ça consiste ?
Bien sûr. Alors moi, du coup, je suis travailleuse sociale en ruralité à l'association depuis un an maintenant. Et j'accompagne donc des victimes de violences conjugales dans les zones rurales. Je tiens du coup des permanences dans 7 MSD. Donc les MSD, c'est les maisons de solidarité départementales, notamment à Uzerche, Juillac, Mémac, Égletton, Argentat, Messac et Bord-les-Orgues, où voilà, je peux y aller plusieurs fois par semaine, rencontrer et accompagner des victimes de violences conjugales, femmes ou hommes d'ailleurs. Et donc voilà, j'ai un calendrier, un permanencier où il y a toutes les dates où je suis présente dans ces MSD là, afin que les femmes voilà sachent voilà que je suis là dans les MSD voilà.
Et le choix de ce territoire qui est donc rural, oui. C'est quelque chose qui était important pour vous dans votre travail. C'était un choix, c'est un hasard, c'est...
Alors, le service ruralité, enfin, existe depuis 2022. Et je pense que oui, c'est en effet, c'est très important parce que quand on voit, notamment quand on peut voir les chiffres, les statistiques, on sait très bien qu'il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de violences conjugales en zone rurale. Il y a beaucoup aussi de féminicides qui sont en zone rurale. Donc ça paraissait important à l'association d'ouvrir entre guillemets ce champ-là pour accompagner ces victimes-là en zone rurale. Donc voilà.
Il y a effectivement, comme le dit ma collègue Yasmina, il y a un féminicide sur deux en France qui a lieu en zone rurale. Donc évidemment, c'est un chiffre tout à fait édifiant, alors même que nous savons bien tous que la densité démographique, bien évidemment, est beaucoup, beaucoup moins importante. Donc il y a un vrai travail effectivement à amorcer. Comme le disait Yasmina à l'instant, pour nous c'est une réflexion et le fruit en fait d'analyses et d'études de territoire depuis plusieurs années déjà, vous voyez, à la suite notamment de la crise sanitaire qu'on a tous connue de 2020, où on a commencé à mettre en route ce projet, à aller sur plusieurs dizaines et dizaines de rencontres de partenaires sur les différents territoires pour être aussi sur une étude, en fait, hein, des besoins selon chaque territoire sur la Corrèze. Et on a commencé, dans le même temps, bien évidemment, à aller rechercher des financements publics, privés, pour pouvoir mettre en route concrètement ce dispositif d'aller vers les femmes les plus isolées, les plus vulnérables en ruralité.
Ces chiffres et la réalité des situations de ces femmes qui se considèrent ou non comme victimes de violence. Donc, j'aimerais bien qu'on y revienne, mais juste avant, je voulais finir avec ce petit tour de table. Célia Bessac, vous êtes stagiaire, donc. En quoi ça consiste, votre stage auprès de l'association SOS Violence Conjugale ?
Alors oui, je suis stagiaire depuis une petite quinzaine de jours et j'ai effectué ce stage dans le cadre de mes études de droit. Et j'accompagne principalement la juriste de l'association, Nadège Petit. Donc c'est plus un stage d'observation.
D'accord, très bien, merci beaucoup. L'activité de SOS Violence Conjugale, donc, c'est une activité qui passe donc, on l'a un peu dit, par une permanence téléphonique, qui passe également par une présence sur le terrain, et puis par une activité juridique. Comment est-ce que vous coordonnez et comment est-ce que vous choisissez la manière dont vous mettez en place ces actions?
Alors, un petit peu, vous voyez, comme par rapport à la ruralité, en fait, hein, il y a notre logique d'aller vers. On va vraiment chercher à déployer des projets et des actions qui vont être en lien avec les besoins, en fait, hein, qu'on étudie, des différents publics, des territoires, ce que aussi les différents partenaires peuvent nous faire remonter. Et puis, notre action, de fait, elle s'inscrit aussi au cœur des politiques publiques, en fait, hein, de lutte contre la délinquance, de lutte contre les violences faites aux femmes et plus largement de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc on répond aussi à des demandes, on exerce des missions reconnues d'utilité publique et donc on répond à des demandes et notamment à différents appels à projets de nos financeurs publics, de nos financeurs privés pour pouvoir toujours développer davantage nos actions et puis autant que possible avoir la possibilité de s'essaimer, de se développer encore davantage et de consolider les différents dispositifs.
Vous disiez que la question de la violence, elle n'est pas tout le temps perçue par les victimes comme une violence. Est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur la définition de qu'est-ce que c'est pour vous une violence conjugale, une violence dans le cadre de l'intimité et des rapports amoureux?
Alors du coup, les violences conjugales, en fait, elles vont prendre différentes formes. Il est vrai que c'est un phénomène en fait de société qui est très insidieux pour les personnes qui le vivent et qui le subissent. C'est justement pour ça qu'effectivement, à l'instant, on pouvait dire avec Yasmina que de nombreuses victimes ne se définissent pas comme telles, parce qu'en fait, elles sont souvent sous emprise, elles sont emprisonnées par le partenaire violent ou la partenaire violente. Et elles peuvent souvent se retrouver finalement dans une logique où elles vont... sans en avoir conscience, hein, banaliser, intérioriser, minimiser toutes les violences qu'elles peuvent être amenées à vivre. Et elles sont très souvent dans le déni, tout comme aussi le partenaire violent, l'auteur de violences, peut l'être également, hein, tout en sachant qu'évidemment, tout acte de violence est puni par la loi et est interdit par cette dernière. Donc, notre travail, et c'est ce que restitue Yasmina tout à l'heure, c'est qu'en fait, on va aussi avoir un rôle de veille en étant tout simplement, je dirais, présente le plus possible et en maillant, vous voyez, l'ensemble du territoire. Parce qu'on le sait, le fait de pouvoir aussi être sur des temps d'information, de sensibilisation, c'est vraiment capital. Ça permet aux personnes d'avoir davantage d'informations, de connaissances sur la problématique des violences et peut-être de réaliser, de se rendre compte qu'en fait, la situation qu'elles vivent n'est pas une situation ordinaire et qu'on n'est pas, par exemple, sur du simple conflit conjugal, mais qu'on a dépassé un cran et qu'on est complètement sur autre chose, qu'on est sur une relation qui se veut asymétrique, inégalitaire. Ça peut être déjà un premier cran de définition, en fait, des violences conjugales. C'est une relation qui va toujours être inégalitaire avec un des deux partenaires engagés dans cette relation qui va exercer un rapport de force, un rapport de domination, de pouvoir sur l'autre. À partir du moment aussi où une femme ou un homme peut avoir des craintes, des peurs, des préoccupations par rapport aux éventuelles réactions de son partenaire, c'est que la relation n'est pas saine et qu'il est nécessaire de pouvoir être très vigilant et de s'interroger et de peut-être aller rencontrer justement des spécialistes, des partenaires qui peuvent peut-être chercher à éclairer justement la situation.
Et je me permets de compléter ce qu'a dit Jeanne, ma collègue. C'est là tout l'intérêt aussi de notre travail. Moi, je le vois sur le terrain. L'intérêt aussi de notre accompagnement pour déconstruire toute cette banalisation, parce que parfois, voilà, c'est ancré en ces victimes, en fait. Et donc, comme je disais, c'est là tout l'intérêt de notre accompagnement pour déconstruire. Nous, on peut travailler, voilà, avec des outils. On a aussi, voilà, on fait aussi des ateliers pour faire comprendre aux femmes que ce qu'elles ont subi, ben, c'est pas normal, que ça c'est puni par la loi. Et voilà, et sortir un peu de cette emprise, sortir de cette banalisation des violences conjugales.
Ces outils, justement, quels sont-ils? Parce que ça peut être inquiet, ça peut être, comment dire, stressant d'arriver face à quelqu'un avec une histoire dont on n'est pas sûr, en sachant pas forcément comment est-ce qu'on va être reçu. Est-ce qu'il y a des outils qui peuvent être pris en main de son côté pour essayer de placer ce qu'on vit sur une échelle de la violence, sur un...
Donc, comme vous le dites, notamment quand vous parlez d'échelle de la violence, nous, on a tout un tas d'outils, notamment, par exemple, le violentomètre, le respectomètre, le michtomètre. On a aussi, à l'association, voilà, un questionnaire sur les victimes, enfin, sur les violences conjugales, pardon, où les femmes, voilà, peuvent se positionner et dire, bon, ben là, j'ai subi ça, ok, notamment avec un graphique où on peut, voilà, elles peuvent voir où elles ont, ou comment elles ont été victimes de violences conjugales, voilà, notamment avec des questions aussi, il y a tout un questionnaire où elles peuvent se positionner en fait sur tout ce qu'elles ont subi. Parce que une victime, c'est pas forcément une femme battue. Il y a plusieurs, elles peuvent subir plusieurs violences, comme la violence physique, la violence verbale, psychologique, sexuelle aussi, économique. Enfin, il y a plusieurs types de violences.
Tous ces outils peuvent se retrouver facilement aussi sur Internet. Pas nos outils de travail, bien évidemment, mais en revanche, les outils qu'a présenté Yasmina sur tout ce qui va être de l'ordre du respectomètre, le violentomètre, le michtomètre. Il y a aussi des questionnaires qui s'appellent, et il suffit de taper sur les moteurs de recherche « Suis-je victime de violence ?» Et maintenant, il y a aussi cette chance de pouvoir accéder à beaucoup d'infos quand même sur Internet. Et donc, les personnes qui se posent des questions, elles peuvent aussi trouver ces questionnaires-là qui sont des autotests, en fait, pour évaluer et, comme disait Yasmina, pour graduer ce qu'on vit dans telle ou telle relation. Ça, c'est vraiment important.
On mettra évidemment ces ressources-là dans l'article qui accompagnera cette interview.
Très bien.
Est-ce que vous avez l'impression que parfois, faire le pas pour aller en parler, pour aller à la rencontre d'une travailleuse sociale comme vous, Yasmina, ou même, j'en sais rien, de la justice, c'est quelque chose qui est difficile, qui peut être douloureux?
Vous voyez, le témoignage des centaines et des centaines de femmes qu'on peut accompagner chaque année, en fait, va être souvent similaire. Il est vrai que de fait, c'est très compliqué. Ça peut souvent être un long parcours éprouvant que d'oser en effet aller se rendre sur tel ou tel service. Hein, vous le disiez, ça peut être oser venir accéder à une association spécialisée comme la nôtre, tout comme passer la porte du groupement de gendarmerie de la commune, aller sur le commissariat de sa ville, oser en parler à son médecin traitant, à sa sage-femme, à l'école peut-être de ses enfants. Enfin, toutes les pistes sont évidemment possibles. Hein, il y a différents cas de figure. Mais il est vrai qu'on a très souvent voyé en écho et en mémoire des situations où des femmes peuvent nous dire « mais en fait, il m'a fallu des années pour oser passer un coup de fil, pour oser vous appeler, pour oser passer la porte de vos services, pour oser en parler à l'assistante sociale des secteurs qui travaille au conseil départemental de la Corrèze, par exemple, ou pour oser aussi, ne serait-ce que le dire à ma voisine ou à ma mère ou le confier à mon frère ». Donc on le sait, les victimes, souvent aussi, elles le reconnaissent elles-mêmes. Hein. Beaucoup d'entre elles vont être amenées de fait à avoir un masque social, en fait, hein, vis-à-vis de leur entourage divers et varié. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a vraiment cette notion déjà de déni. C'est très difficile de se rendre compte qu'on vit, en fait, de la violence au sein du couple et que peut-être le père de ses enfants, peut-être que l'amoureux, le petit ami avec lequel on a et pour lequel on a des sentiments, en fait, est une personne qui exerce de la violence. Rien que de se rendre compte de cette réalité-là, ça peut être extrêmement douloureux et difficile à admettre aussi. Donc c'est souvent un long cheminement qui est intime, qui est personnel, qui est unique en fonction de chacune des personnes. Et j'ai par exemple en tête une dame qui avait eu nos coordonnées via l'association depuis 4 ans et qui avait bien dit « j'ai mis 4 ans et j'ai honte d'avoir mis autant de temps à oser passer vous voir sur votre accueil de jour ». C'était celui de Cul à ce moment-là. Donc bien évidemment, comme vous pouvez le comprendre, l'ensemble de mes collègues, elles vont avoir un rôle primordial aussi de chercher à rassurer ces victimes et surtout à déconstruire avec elles ces sentiments de honte, de culpabilité et de peur qu'elles peuvent tant être amenées à ressentir.
Oui, d'autant que si je comprends bien ce que vous nous dites, en fait, appréhender et retarder le moment d'en parler, c'est pas du tout la honte, c'est la norme.
Alors ça peut être la norme personnelle parce que en fait elles sont effectivement engluées dans des mécanismes et dans des mécaniques psychologiques et spécifiques à la violence conjugale. Tout comme effectivement quelque part, si on prend aussi de la hauteur, c'est peut-être aussi une forme de norme collective, une forme de norme dans notre société. Effectivement, ça reste, malgré la libération de la parole médiatique et publique aujourd'hui hein, sur le sujet, ça reste effectivement un sujet abordé qui est difficile, en fait, hein, pour chaque personne victime concernée, bien sûr. D'autant que nous accompagnons aussi depuis toujours, en fait, hein, à l'association, toutes les victimes de violences intrafamiliales. Notamment, vous voyez, il nous arrive d'accompagner, de suivre parfois pendant plusieurs années des personnes adultes à l'heure actuelle, mais qui ont vécu des violences pendant leur enfance, hein, notamment des violences sexuelles, des agressions sexuelles qui ont été commises par l'entourage familial.
Et donc, démystifier un peu cet accueil qui peut être inquiétant. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter comment ça se passe pour vous, un accueil ? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre si on se rend dans l'un des lieux où vous intervenez ?
Alors après, donc on a différents services effectivement d'accueil de jour et d'écoute. Donc lorsqu'une personne vient à notre rencontre, on va vraiment être sur un axe qui est important pour nous dans notre cœur de métier. Ça va être la convivialité et la mise en confiance de ces personnes qui peuvent arriver, surtout sur les premiers accueils, hein, sur les premières fois. Donc en fait, là aussi, il y a différentes portes d'entrée. Soit la personne victime arrive par ses propres moyens et elle a peut-être fait des recherches, vous voyez, spontanément, hein, pour venir sur nos différents services. C'est peut-être elle qui nous a téléphoné parce que, justement, elle a été rechercher nos coordonnées, par exemple, hein, sur Internet, ou qu'elle les a vues au sein d'une maison de solidarité du département ou d'une maison de santé pluridisciplinaire ou peu importe, on est présente sur différents lieux. Donc ça, c'est un premier cas de figure. Ensuite, très souvent, il y a un certain nombre de victimes qui vont être orientées parce qu'elles auront été repérées dans leur situation de victime de violence par des partenaires,
Donc là aussi, ça peut être de l'ordre du barreau des avocats, ça peut être du côté des acteurs, donc de la justice, des forces de l'ordre, ça peut être du côté effectivement du médical et du paramédical, du côté des travailleurs sociaux sur l'ensemble du département et des différentes associations. Vous l'aurez compris, ça peut être vraiment divers et variés. Et voilà. Et dans tous les cas, on va bien sûr accueillir cette personne en prenant le temps. On a cette richesse et cette exception, je dirais, d'avoir une équipe d'accueillantes et d'écoutantes bénévoles qui sont entièrement à disposition, je dirais, et en tout cas dans un engagement, un investissement très fort vis-à-vis des victimes. Et donc, quand je dis entièrement, j'exagère quand même. Je vais être plus précise et plus objective. L'idée, bien évidemment, c'est que pendant l'ouverture de nos services, sur une amplitude horaire prédéfinie où nous ne sommes ouverts que la semaine et non pas soirée et week-end, du coup, notre équipe d'intervenantes bénévoles va être présente, vous voyez, pour un accueil avec rendez-vous ou sans rendez-vous. C'est ça aussi qui est important peut-être à retenir. Et du coup, les personnes qui se présentent à l'association, on va prendre le temps de faire connaissance avec elles. On va prendre le temps de leur donner le maximum d'informations, de conseils pratiques en fonction de leurs attentes, de leurs demandes, de leurs besoins.
Me concernant, pour compléter ce qu'a dit ma collègue, en ruralité, ça se passe aussi comme ça. Les situations sont orientées par des partenaires, donc que ce soit des psychologues, des médecins, des avocats, parfois aussi des travailleurs des travailleurs sociaux, assistantes sociales de la MSD, etc. Donc je les accueille dans les MSD, donc dans les bureaux, mais parfois pas. C'est-à-dire que moi, je fais donc dans le cadre du dispositif Aller Vert en ruralité. Je peux rencontrer des femmes sous un abribus, par exemple, ou dans un parking de supérette, ou à côté d'une pharmacie, à côté d'une église. Je l'ai déjà fait aussi. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que parfois il y a des femmes qui ne peuvent pas venir en MSD parce que elles connaissent, je sais pas, peut-être parfois la secrétaire, ou qu'il y a peut-être quelques soucis au niveau d'un suivi éducatif avec l'assistante sociale et qu'elles ne veulent pas tout mélanger. Parfois parce qu'elles ne peuvent pas trop rester dehors, donc elles se mettent à côté de chez elles, à côté d'un parking qui est pas loin de la maison. Donc voilà, ça m'arrive de faire des rendez-vous dehors, dans la voiture aussi, parce que du coup j'ai une voiture de service. Donc voilà.
C'est vraiment ce qui va caractériser les situations effectivement des femmes victimes en ruralité. C'est un frein fort à la mobilité de toute façon. Tout en sachant que déjà dans la violence conjugale, il peut y avoir un contrôle permanent et vraiment coercitif du conjoint violent qui peut parfois chercher à contrôler aussi les kilomètres qui pourraient être faits par la compagne ou par son épouse. Donc même si, vous voyez, la femme victime, elle peut être véhiculée, ce qui n'est pas toujours le cas, qui plus est, mais lorsqu'elle l'est, elle peut aussi être très empêchée et contrainte dans ses déplacements. On parle du contrôle kilométrique, mais aussi le contrôle au timing, en fait, au temps qu'elle va mettre sur les trajets habituels et quotidiens. Il suffit qu'elle ait parfois dépassé de 10 minutes, admettons, une durée de trajet commune, en fait, habituelle, pour que malheureusement il y ait un déclenchement après d'une scène de violence. Donc, de notre côté, et en particulier, c'est certain pour le poste qu'occupe ma collègue Yasmina, il y a pour nous, à cœur et au vu de notre vocation, le fait de pouvoir proposer un accompagnement qui soit le plus possible sur mesure, à la carte, évidemment toujours dans la mesure de nos moyens, de nos possibles. Après, on fonctionne avec des moyens qui malheureusement sont restreints et contraints. Mais pour autant, autant que possible, on essaye d'avoir le plus de marge de manœuvre parce que l'on sait à quel point il est difficile pour une victime parfois d'engager des démarches. Et surtout, lorsqu'elle est enfin prête à raconter, à livrer son quotidien, à libérer la parole et à lever le tabou, le secret des violences, on sait que là, autant que possible, il nous faut être les plus réactives, en fait.
Pour compléter aussi ce qu'a dit ma collègue, moi j'ai une situation qui me vient en tête, notamment quand elle dit que voilà, c'est un suivi à la carte, et elle a raison de dire ça, parce que moi j'ai une femme la semaine dernière par exemple qui me dit je dois aller récupérer ma pilule, parce qu'il faut savoir qu'il y a des femmes qui sont encore avec le conjoint violent. Et c'est là que voilà, c'est un peu compliqué, parce que cette femme-là me dit je dois aller récupérer ma pilule, on se rejoint devant la pharmacie, je suis géolocalisée, parce qu'on n'a pas parlé de cette violence-là, mais la cyberviolence existe aussi. Et donc du coup, je suis géolocalisée, je ne peux pas me. Il faut qu'il voit que je suis devant la pharmacie, quoi. Donc voilà les freins et les difficultés de la ruralité.
Vous avez l'impression que ces formes de contrôle, vous parlez du contrôle kilométrique, des cyberviolences, c'est des choses qui sont particulièrement présentes, qui sont des expressions particulières de la violence en milieu rural, ou c'est juste que ça a des conséquences d'autant plus grandes qu'on est vite éloigné et vite isolé?
Je pense qu'en zone urbaine comme en zone rurale, les femmes sont confrontées à ces violences-là. En zone rurale, c'est vrai que c'est un tout petit peu plus compliqué étant donné qu'elles sont très isolées. Moi, j'accompagne des femmes parfois qui ne sont pas en contact avec leur famille, qui sont très loin de leur famille, qui sont dans un petit bourg où il n'y a pas forcément de voisins à côté. Elles n'ont pas forcément leur famille, elles n'ont pas de soutien, et c'est là qu'on comprend l'importance d'être entourée de sa famille, de ses amis, etc. Donc, que ce soit en zone rurale ou en zone urbaine, nous, on est confrontés à ces situations-là. Moi, j'entends parler des situations de mes collègues. C'est pareil. Enfin, il y a des femmes qui sont géolocalisées, qui sont contrôlées. Enfin, il y a même des traceurs, enfin, dans le téléphone. Enfin, toutes ces violences-là existent.
Ce qui est plus difficile par rapport aux zones un peu plus rurales sur notre département, c'est donc ces freins à la mobilité, mais qui touchent globalement toute la population générale en territoire rural. Il y a aussi ce manque de tissu en termes de lieux ressources, d'offres de soins aussi, d'offres de services associatifs. Donc c'est pour ça qu'on estime que c'est aussi à notre association de pouvoir être dans cette logique de déplacement, en fait, et d'aller vers le public qui en a besoin. Et puis, c'est ce que touchait aussi du doigt ma collègue Yasmina, c'est que forcément, en ruralité, de fait, il va y avoir un réseau d'interconnaissance qui, malheureusement, risque d'empêcher les victimes d'oser dévoiler ce qu'elles vivent, en fait. Hein. C'est toujours difficile d'oser casser l'image sociale, publique, peut-être du partenaire violent, du père de ses enfants, alors que c'est peut-être un monsieur qui est reconnu de façon extrêmement positive sur le petit bourg, sur la petite commune, et qui peut aussi être engagé notamment dans des activités, par exemple, politiques, associatives. Enfin, toutes les cas de figure sont possibles, puisque la violence conjugale touche absolument tout le monde. On est toutes et tous concernés par ce fait de société-là. Et la personne victime de violence, c'est madame tout le monde, et la personne qui exerce la violence, c'est pareil, c'est monsieur ou madame tout le monde. On parle beaucoup des messieurs par rapport aux auteurs de violence, on peut peut-être faire une parenthèse qui est importante, c'est qu'on s'appuie aussi sur la réalité statistique et chiffrée, internationale et nationale, qui met bien en lumière qu'il y a cette réalité notamment des féminicides, où c'est bel et bien une femme tous les deux jours et demi en France, qui meurt toujours, qui décède suite à effectivement au meurtre qui est perpétué la concernant par rapport à son conjoint ou ex-conjoint. Et donc en grande majorité, à plus de 80-90% des cas de violence conjugale, ce sont les femmes qui sont victimes. Voilà pourquoi aussi notre discours est assez genré. On nous pose souvent la question et donc elle s'explique simplement par la réalité chiffrée.
Alors je ne sais pas si c'est là-dessus que Jeanne voulait rebondir, mais en tout cas elle avait une question.
Oui, alors je voulais vous demander, parce que là vous faites part de la situation d'accompagner les victimes de violences conjugales dans les zones rurales qui est d'autant plus compliquée du fait que ce soit des zones rurales. Et au début de l'interview, vous avez mentionné le fait que la plupart des victimes justement se trouvaient en zone rurale. Et je voulais vous demander, est-ce que du coup, vous, votre structure, elle bénéficie de plus de moyens? Enfin, est-ce que vous avez l'impression que les moyens qu'on vous donne sont à la hauteur justement de cette situation qui est spécifique des zones rurales?
Dans tous les cas, c'est ce que je disais effectivement tout à l'heure. Donc notre association, elle est subventionnée à la fois par des financeurs publics et par des financeurs privés. Et en fait, on se trouve face à une recrudescence des demandes et des besoins. On a concrètement une hausse significative de notre activité depuis déjà plusieurs années. On arrive à obtenir des financements supplémentaires, mais dans le même temps, on a aussi des financements qui restent stables et qui, de fait, n'évoluent pas proportionnellement à la hauteur de l'augmentation de nos charges et de nos besoins. Là, je parle de l'ensemble de nos services, que ce soit donc notre dynamique d'aller vers en ruralité, tout comme nos services d'accueil et d'écoute qui sont sur site sur les villes de Tulle et de Brive.
Donc, globalement, on s'inscrit quand même dans une démarche où les pouvoirs publics prennent en compte et en meilleure considération ce phénomène-là, c'est certain, par rapport à il y a encore quelques années. Pour autant, nous connaissons, j'imagine, tous la situation aussi politique hein, et du gouvernement qui est plutôt sur une politique restrictive budgétaire en ce qui concerne, entre autres, le ministère des Droits des Femmes, mais comme pour tous les autres ministères.
Merci.
Je vous en prie.
Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, faire la lumière sur... Najma me fait signe qu'elle a une question elle aussi.
Oui, en fait, je me demandais... Vous parliez du rôle juridique que vous aviez aussi, enfin de la section juridique que vous aviez aussi. Je me demandais quel rôle et quel pouvoir d'action juridique vous aviez au sein de l'association.
Alors, comme le disait notre stagiaire Célia Bessac tout à l'heure, on a donc eu la possibilité de créer un poste fin 2021 pour pouvoir embaucher une juriste, donc en l'occurrence notre collègue Nadège Petit. Et donc Nadège Petit, elle se concentre essentiellement sur un dispositif qui est très particulier et qui se met en place en très étroite collaboration avec les tribunaux judiciaires de Tulle et de Brive. Nous, on va vraiment intervenir sur ce qu'on appelle l'évaluation du danger et le suivi des personnes victimes bénéficiaires de dispositifs de téléprotection que sont les téléphones grave danger et les bracelets anti-rapprochement. On est donc le seul opérateur sur le département par rapport à ce dispositif-là depuis 2015 en ce qui concerne les téléphones grave danger et depuis 2021 par rapport aux bracelets anti-rapprochement. Et dans le cadre de cette mission spécialisée, on a des rôles très spécifiques, à la fois très étendus en fait et très resserrés. Je m'explique, on intervient donc sur l'évaluation du danger, c'est-à-dire que on reçoit parfois plusieurs fois par semaine diverses réquisitions judiciaires auxquelles on est amené à répondre expressément et le plus rapidement possible. Donc dans les plus brefs délais, il va falloir en particulier à notre collègue Madame Petit et puis on a également Madame Naveau, éducatrice spécialisée qui collabore et qui est main dans la main avec Nadège Petit aussi sur ce dispositif socio-judiciaire et juridique. Et donc, on va chercher à rentrer en contact avec la femme victime de violence pour avoir un état des lieux le plus global possible de sa situation et pour continuer à évaluer avec les autres partenaires et avec le tribunal judiciaire les critères de dangerosité sur la situation. On envoie ensuite un rapport circonstancié qui est précis, hein, qui fait concrètement plusieurs pages au procureur de la République et à ses services. Et c'est bel et bien le magistrat qui va prendre la décision d'attribuer ou pas un téléphone grave danger ou un bracelet anti-rapprochement à la victime. Sachant que les dispositifs ils vont avoir le même objectif, celui de sécuriser, de protéger la victime, mais ils vont fonctionner différemment l'un et l'autre, hein, techniquement. Et puis, on va de fait proposer aux personnes qui sont donc bénéficiaires de ces dispositifs un accompagnement pendant toute la durée de la mesure judiciaire et même post-mesure, même au-delà. Bien sûr, nos services ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain pour la personne bénéficiaire et on va lui proposer de pouvoir être aussi suivi par les collègues de l'équipe, notamment via notre accueil de jour, peut-être aussi via Yasmina lorsqu'elle se déplace en ruralité parce que les personnes bénéficiaires d'un téléphone grave danger, par exemple, peuvent évidemment habiter aussi bien en ville qu'en zone un peu plus rurale. Donc on va là aussi chercher, encore une fois, à être dans l'adaptation en fonction des besoins des personnes. Ces mesures judiciaires, elles sont de l'ordre de 6 mois dans un premier temps sur la première décision et elles sont renouvelables au besoin jusqu'à 24 mois, voire davantage selon les situations et à la libre appréciation des magistrats. Donc, on a ce rôle qui est très particulier par rapport au téléphone grave danger ou bracelet anti-rapprochement. Et puis, en ce qui concerne plus globalement notre rôle aussi sur l'aspect juridique et judiciaire, depuis déjà de très nombreuses années, on peut tout à fait, sans bien sûr se substituer, hein, remplacer le conseil, c'est-à-dire l'avocat par exemple de la dame, mais on va pouvoir apporter un soutien moral en se déplaçant à ses côtés et à sa demande sur différents types d'audiences, hein, que ce soit des audiences civiles, des audiences au pénal. On peut évidemment être présente tout le long des démarches engagées par la personne victime que nous accompagnons.
Alors, ces dispositifs, vous disiez qu'ils fonctionnaient différemment l'un de l'autre. Est-ce qu'on peut expliciter un peu ce que c'est un téléphone grave danger et un bracelet anti-rapprochement ?
Pour faire simple, le téléphone grave danger, ça va être un téléphone comme on a tous. C'est un smartphone. Et en fait, sur ce smartphone qui, malgré tout, est spécifique, il est donc remis à la personne victime par le ministère public, par les services du procureur de la République. Et sur ce téléphone, il va y avoir une touche d'alerte, un petit peu le principe de la présence verte. Quand la victime va se sentir en danger, elle va être amenée à activer ce signal d'alerte et elle sera directement géolocalisée et reliée à une plateforme de téléassistance qui, bien sûr, prend en compte et en considération son appel H24, 7 jours sur 7. Le téléassisteur qui va recevoir l'appel va être chargé d'effectuer ce qu'on appelle la levée de doute en quelques secondes. Soit la personne victime peut s'exprimer librement et expliquer quelle est la situation, soit elle ne peut pas s'exprimer et dans tous les cas, la conversation est toujours enregistrée. Et l'idée, c'est que ce téléphone grave danger, lorsqu'il est déclenché dans son signal d'alerte, c'est qu'il puisse y avoir quasi immédiatement, du moins en quelques minutes, l'intervention des forces de l'ordre sur site. Donc, en fonction de l'endroit où se trouvera la personne victime, ce sera soit les forces de l'ordre de la gendarmerie, soit les forces de l'ordre de la police qui se déplaceront. Ce dispositif, il a été généralisé partout en France depuis 2014. Il a fait ses preuves. Il permet concrètement de sauver des vies chaque année. Et d'ailleurs, ça fait souvent l'actualité médiatique, en fait. Plus récemment, on a entendu aussi parler d'une dame qui, justement, avait pu déclencher son téléphone grave danger et monsieur avait pu être interpellé avant qu'il y ait une récidive en termes de nouvelles violences. Donc voilà comment fonctionne le téléphone grave danger. Donc c'est un dispositif qui est uniquement remis à la personne victime de violence. En revanche, le bracelet anti-rapprochement, là, ce qui peut être retenu, c'est que c'est un dispositif qui fonctionne des deux côtés avec finalement deux unités. Il y a une première unité qui va être de l'ordre d'un bracelet. En fait, la personne qui exerce des violences va se voir attribuer un bracelet, donc elle va être placée sur surveillance électronique et le moindre de ses déplacements, là aussi, est géolocalisé. Et en parallèle, la personne victime va recevoir ce qu'on appelle une unité mobile, donc c'est un petit peu comme un téléphone. Et le bracelet anti-rapprochement, le principe, c'est que c'est le magistrat qui va décider d'un périmètre de sécurité qui va toujours suivre la personne victime. Donc, peu importe où elle se trouvera, admettons, il va y avoir deux seuils de périmètre de sécurité autour de cette personne, par exemple de l'ordre de 10 km puis de 5 km pour se rapprocher d'elle. Et dès que la personne auteur de violence qui porte le bracelet et qui est sous surveillance électronique franchit et donc s'approche à quelques kilomètres de la personne victime, il va y avoir un déclenchement d'alerte. Là aussi, l'objectif est le même, c'est qu'il puisse y avoir intervention rapide, express des forces de l'ordre pour prioritairement sécuriser la victime, deuxièmement interpeller la personne sous surveillance électronique.
Ces dispositifs, c'est donc des dispositifs qui sont mis en place suite à des décisions judiciaires. Et donc, j'ai une question qui est un peu bête, mais puisqu'on sait que ce sont des personnes qui sont en grave danger, comment est-ce que ça se fait qu'on ne les a pas déjà mises en sécurité? Comment est-ce qu'on en arrive à des situations comme ça où on sait qu'il y a des gens qui sont en danger et pourtant,
Oui, c'est pas du tout une question bête, hein. Bien sûr, il y a pas de question bête du tout. Non, c'est une question bien sûr qui fait sens. Alors après, il faut aussi savoir que les situations, déjà d'une part, elles peuvent évoluer et que les critères de dangerosité peuvent aussi être plus ou moins fluctuants selon les situations. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que souvent, notamment, ce téléphone grave danger, il peut faire suite aussi à des condamnations concrètes et notamment, ils vont pouvoir être mis en place dans une logique de prévention et de lutte contre la récidive à la suite, par exemple, d'une sortie de détention d'un auteur de violence qui aura déjà été condamné et qui a purgé sa peine par rapport à des violences qu'il a commises à l'encontre de son ex-compagne, vous voyez, par exemple. Mmh. Donc, il y a différents cas de figure, en fait, hein, par rapport à ces dispositifs-là.
D'accord, merci beaucoup. Jeanne, Nejma, est-ce que vous vouliez réagir?
Non.
D'accord. Eh bien, écoutez, on arrive doucement à la fin de cet entretien. Est-ce qu'il y avait quelque chose sur lequel vous vouliez revenir ?
On peut peut-être préciser aussi qu'il y a une période qui est très à risque pour les personnes victimes de violences, c'est justement ce temps de séparation. Ça nous fait écho à nouveau quand on parlait à l'instant des téléphones grave danger, des bracelets anti-rapprochement, mais là aussi, vous voyez, en termes de constat en ce qui concerne les féminicides en France, souvent, malheureusement, ces drames vont se dérouler au moment où une séparation va concrètement s'acter. Donc là, c'est vraiment aussi un point de vigilance qu'on peut avoir en tête. Et puis se dire aussi globalement qu'en fait, tout citoyen connaît de près ou de loin une personne victime de violence ou qui l'a été ou qui risque de l'être. Parce qu'en fait, selon les sources, on peut dire qu'une femme sur 10 est victime de violences conjugales, voire une femme sur 5, hein, selon les données. Donc évidemment que c'est un chiffre qui est édifiant et ça signifie bel et bien que dans nos familles, dans nos milieux professionnels, lorsque l'on sort au cinéma, lorsqu'on va exercer son activité sportive dans son club ou son association, en fait on côtoie, on échange, on a peut-être des liens d'amitié avec des personnes victimes de violences. D'où l'importance peut-être d'avoir en tête ne serait-ce qu'un numéro utile ressource. On l'a cité tout à l'heure au début de l'interview, c'est le 3919. Ce n'est pas un numéro d'urgence, c'est bien un numéro d'écoute et d'information, mais qui permet aussi parfois d'éclairer donc les situations et d'avoir des orientations ensuite adaptées en fonction des besoins. Donc c'est vraiment un phénomène de société qui nous concerne tous bel et bien. Et puis on nous pose très régulièrement la question de comment est-ce qu'on peut contribuer à son échelle, en fait, hein, à sa mesure, à son propre niveau. Il y a différentes possibilités pour cela. C'est notamment, par exemple, on évoquait tout à l'heure pour nous la question des financements publics et privés. Mais en fait, notre association, comme beaucoup d'autres associations, est amenée à rechercher régulièrement des soutiens, en fait, des soutiens divers et variés. Ça peut être des soutiens financiers et ça peut être notamment le fait de nous soutenir. Par exemple, nous faisons un don de 10 euros. Quand on donne 10 euros à une association comme la nôtre, nous, concrètement, ça va, par exemple, nous permettre d'acheter un livre pédagogique pour les enfants que nous accompagnons. Vous voyez, donc 20 euros, ça va financer un aller-retour à Bord-les-Orgues pour ma collègue Yasmina avec notre véhicule de service, sans compter bien sûr les frais du coup annexes, mais ne serait-ce qu'en termes de frais de carburant et de péage, on va être sur cette réalité-là. Oui, donc ça permet d'aller rencontrer concrètement une femme, voire deux, voire trois sur une demi-journée. Donc il y a aussi cet axe-là. Pas plus tard, vous voyez que ce week-end, on a monté notre premier vide dressing solidaire sur la ville de Tulle. On est ravis parce que les personnes ont vraiment été au rendez-vous, en fait, et se sont mobilisées et on les remercie chaleureusement. On a eu beaucoup de passages surtout le week-end. On a pu récolter des fonds et ça nous permet aussi d'avoir davantage de force sur nos prochaines actions, en fait. Voilà, donc chacun peut contribuer. Il y a aussi le fait, je le disais tout à l'heure, que nous fonctionnons à la fois donc avec une équipe salariée, mais donc aussi avec une équipe bénévole. Et toutes les forces, toutes les compétences peuvent être bienvenues aussi dans ce cadre-là.
Et donc, pour vous soutenir, que ce soit
le manif... Et puis, on a fait un stage, comme vous l'avez entendu. Donc, s'il y a aussi des étudiants et étudiantes qui sont intéressés, on étudie toutes les candidatures avec attention.
D'accord, très bien, bah, merci beaucoup. Si on veut vous apporter donc, du soutien, que ce soit de manière financière ou de manière concrète en vous apportant du temps, via le bénévolat, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Quelles sont les manières de vous contacter?
Alors, on peut nous joindre directement par téléphone pour les personnes qui le souhaitent. Notre numéro d'accueil départemental, c'est le 05 55 88 20 02. On est aussi disponible sur une adresse mail, je vais vous l'appeler contact@sosviolenceauplurielconjugal@ 19 en chiffres.fr. Donc on peut aussi commencer à échanger par mail. Et puis on est présente aussi sur les réseaux sociaux. On a deux pages Facebook, dont une page Facebook qui s'appelle SOS Violence Conjugale Corrèze. Et puis on a aussi un compte Instagram, même nom, SOS Violence Conjugale Corrèze. Et on peut nous retrouver, avoir un certain nombre d'informations de prévention justement sur nos pages et sur nos comptes, sur nos réseaux sociaux. Et puis échanger avec nous justement en message privé. On peut aussi entamer des discussions de cette façon-là.
Merci beaucoup. Jeanne Itangou, Yasmina Bougrini et Célia Bessac pour votre temps et votre disponibilité pour avoir répondu à toutes nos questions.
Merci à vous. Merci beaucoup pour votre attention.
On vous souhaite une bonne journée et on espère vous entendre bientôt à nouveau sur les ondes de Radio Vassivière.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.